Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Ping pong.
Son prénom en persan nous dit la fleur. Gaul et l'amour, shifté, éprise de la fleur, pourrait-on traduire. Mais aussi de son hang drum, percussion ovniesque au son féerique que vous entendez en ce moment. Et c'est même elle qui joue. Elle se destinait à une carrière de musicienne, piano dès 5 ans, conservatoire de Vienne à 14. Elle en joue parfois de son hang drum sur les quais de Seine, à Paris, sa ville d'exil. Car si elle a décidé, adolescente, de faire du cinéma, c'est parce que pour elle, c'est 1000 langues alors que la musique n'en est qu'une. Elle avait en revanche pas prévu la confiscation de passeport, l'exil forcé pour un film américain avec Leonardo DiCaprio et sans voile. Alors elle enfonce le clou et les doigts dans la prise, comme elle dit, pour voir ce que ça fait. Elle sera nue en couverture du magazine Égoïste. Elle sera une Afghane au fantasme émancipé dans Sigue Sabour d'Atik Raimi. Elle sera dans les grosses productions hollywoodiennes et aussi le néo-marivaudage français de Louis Garrel.
Elle est une vilaine fille. Justine Trier grandit dans des communautés nimbées de pensées bouddhistes. Elle s'est d'abord imaginé un destin de peintre, mais bizarre, inquiétante, expressionniste. Puis s'est laissée fasciner par la violence dans des vidéos et un premier film au titre guerrier, acclamé par la foule et qui a notamment révélé Vincent Macaigne au cinéma, La bataille de Solferino.
Elle est aujourd'hui à la fois la femme d'un poète du quotidien dans le film de Jim Jarmusch, Peterson, sérieux candidat à la Palme d'Or, et pour la première fois au théâtre, en Anna Karenine bouleversée et abrasive, mise en scène par Gaëtan Vassard au Théâtre de la Tempête, c'est jusqu'au 12 juin à Vincennes.
Quant à elle, elle revient aussi de Cannes, où son deuxième long-métrage, Victoria, a fait sensation dans la prestigieuse Semaine de la Critique. Victoria, l'histoire d'une jeune avocate aux airs de dame de fer, dont la réalisatrice, donc Justine Trier, perce l'armure à plaisir avant de l'éparpiller façon puzzle dans une comédie burlesque et mélancolique.
Hop. Tiens, couche-toi et mets tes jambes sur mes épaules pour faire circuler le sang. Hop. Respire calmement.
Oh.
Alors respire. Ok, c'est bon, tu te sens mieux là?
Oui, merci.
Voilà.
T'étais infirmier ou quoi?
Non, mais enfin j'ai aidé des types qui faisaient des bads après avoir pris du crack ou d'autres trucs.
J'ai besoin d'un point de fuite.
Voilà, mais regarde le ciel, c'est ton point de fuite, d'accord?
Victoria, Virginie Fira cherche un point de fuite dans les bras avec l'aide de Vincent Lacoste dans votre nouveau film, votre second long métrage, Justine Trier, pour lequel vous étiez donc à Cannes dans la Semaine de la Critique. On a coutume de dire que Cannes, c'est la grande fête du cinéma. Pour vous, il y a une grande fête à l'orée de votre film Victoria, une noce qui termine de façon presque tragique. Pour vous, Cannes, dont vous revenez donc, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de plaisir, comme on a l'impression qu'il est en train de le vivre Victoria? C'est le plus beau jour de votre vie ou alors c'est un bal tragique?
C'est un peu tout à la fois. C'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est passé en une seconde, donc j'ai pas vraiment ressenti les choses en fait, tellement c'était rapide. C'était assez incroyable, mais ouais, j'ai l'impression que je sais pas, c'est irréel quoi. Moi, c'est la première fois que je vivais ça comme ça quoi.
Golshifteh Farahani, vous aussi, vous rentrez tout juste de Cannes. C'est un aller-retour express parce que vous êtes retrouvée là-bas dans cette bulle et en même temps vous êtes revenue jouer intensément cette Anna Karenine au théâtre de la Tempête à Paris à Vincennes. Ça a dû vous paraître surréaliste, non, le passage de l'un à l'autre?
Oui, je crois que Cannes, de toute façon, c'est un peu surréaliste, tout ce moment de, on rêve quelque chose et on revient dans notre vie quotidienne. Il vient chercher les bijoux, les robes et les chaussures et voilà, tout part et nous, on reste dans notre vie normale. Là, moi, je suis comme un témoin un peu entre Cartoucherie et Montreuil, mon petit appartement que j'ai loué pour être près de la Cartoucherie. Et d'un coup, à Cannes, monter des marches et tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai rêvé de Cannes. Je sens même pas que j'étais là-bas.
J'imagine, Justine Trier, que, un peu comme nous le dit à l'instant Golshit Sefarani, quand on monte les marches du Palais des Festivals, on se sent puissante, à l'instar de votre personnage, de Victoria, donc incarnée par Virginie Efira, cette avocate pénaliste qui semble diriger son existence d'une main de fer, et puis pour laquelle vous vous êtes pris plaisir à l'abîmer, ça c'est vos mots, cette femme costaud, je reprends encore vos termes. Vous pouvez nous présenter son personnage qui, à la fois, vous a été notamment inspiré, en tout cas c'est nourri de Virginie Efira, à qui vous avez pensé, je crois, très tôt, et qui vous ressemble aussi.
Alors, en vrai, non. En fait, c'est un peu l'inverse. J'ai vraiment écrit en pensant à personne. C'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, je me suis enfermée dans une bulle comme ça pendant, je sais pas, 6 mois, 7 mois. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit qui pourrait jouer ce personnage. Et c'était vraiment angoissant. Je me suis dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que je pourrais jouer ça? Et très vite, je me suis dit non, c'est impossible. Et puis après, j'ai trouvé Virginie et c'était un peu l'une des rares actrices qui me semblait être capable d'être extrêmement drôle et en même temps d'avoir ce truc extrêmement robuste, puissant. Et c'était un défi pour moi d'arriver à trouver des fêlures en fait et à déconstruire, à trouver un dérèglement dans son dans cette carapace, quoi.
Vous l'avez fait souffrir, comme on disait que Piala, que je crois que vous avez pu aimer, aimer faire tyranniser ces comédiens pour en tirer quelque chose de puissant et de vrai.
Non. Moi, en fait, je crois que il y a un mythe là-dessus sur le fait de martyriser les actrices que moi, je comprends pas trop. J'ai pu aimer ça quand j'étais plus jeune, mais maintenant, je me rends compte que c'est pas trop mon idée. Et c'était presque l'inverse. C'était extrêmement doux. Après, c'est devenu, il y a eu des moments difficiles sur le tournage, mais en fait, ça s'est fait de manière finalement assez comme deux sœurs. On a le même âge, Virginie et moi. On se connaissait pas et on s'est apprivoisés et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et on a eu un truc très fusionnel sur le plateau. On se regardait et c'était assez animal. Je dis rarement ça, mais vraiment avec elle, c'était animal, quoi. Et il y avait un truc, voilà.
Et il y a des animaux aussi dans le film, hein. Oui, chimpanzés, dalmatiens.
Ouais, qui ont été les plus difficiles à gérer, franchement. Moi, je sais pas si je retournerai avec des animaux comme ça, vraiment. Hein. On a eu très peur avec eux, quoi.
Mais justement, le personnage de Virginie Efira, Victoria, dit au début du film que finalement, il y a dû avoir un problème de chimie. C'est une histoire de chimie qui fonctionne pas, cette situation qu'elle a dans sa vie. Et on se rencontre au fur et à mesure, sans vouloir dévoiler le film, que l'idéal, ce serait quand même un mec Prozac qui peut s'incarner en la personne de Vincent Lacoste. Est-ce que c'est un peu une quête chimique de l'amour aussi, cette histoire de Victoria?
Ouais, bah oui, c'est vrai que non, c'est quelqu'un qui est complètement, qui n'a plus accès aux choses, en fait, qui n'arrive plus à faire corps avec, mais pas seulement avec l'amour, avec la vie, l'amitié. Et c'est vrai que moi, au tout début de l'écriture, je pensais que je voulais raconter la fin d'une amitié et le début d'un amour. Donc c'était vraiment la trame au début. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui va perdre un ami dans une histoire comme ça de chaos terrible et retrouver en fait le goût de l'amour, du sexe, de tout ça. Donc il fallait effectivement créer d'abord cet abîme et montrer... mais alors effectivement, ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui soit, comment dire, qui soit pas déjà détruit dès le début. Donc il fallait vraiment montrer toutes ces facettes. Et c'était très amusant de déployer ça progressivement. De façon assez burlesque, parce que c'est vrai que ça reste toujours assez léger, mais de montrer ça comme ça, tout ça se craquelait tranquillement, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, moi.
Non, mais il y a pas de problème. De toute façon, on a des médicaments.
Ah, d'accord, ok.
Oh, Madame Karenina, her husband left her in my charge.
You don't know me, Madame Karenina, but...
Oh, yes, I do. We've been talking about you all the way from St. Petersburg.
It must have been very boring for you.
Oh, no. You see, your mother talked about her son and I talked about mine. You see, Madame has a little boy, too. She hates to leave him, don't you?
Yes, my only child, you know. I've never left him before.
Goodbye, my dear. A woman of my age don't have to beat about the bush. And I don't mind telling you, I've completely lost my heart to you. You, my dear, have the divine gift of silence. Oh, let me kiss that pretty face. Now, you must come and see me.
Thank you, Countess.
Forgive me, Your Excellency, forgive.
Goodbye, Count.
Goodbye.
Goodbye. Goodbye. Now, that's what I call a wonderful woman.
Voilà ce que j'appelle une femme formidable. Anna Karenine, la plus belle femme de Russie, est incarnée par Greta Garbo dans ce film de 1935, signé Clarence Brown. C'est l'une des nombreuses adaptations cinématographiques d'Anna Karenine. C'est la scène de la rencontre entre Anna Karenine et le comte Bronski à la gare. C'est adapté dans une double première fois, Golshifteh Farhani, parce que finalement, c'est la première fois que c'est au théâtre, signé Gaëtan Vassar, qui a donc redécoupé le texte, et c'est la première fois que vous aussi faites du théâtre. Il dit d'Anna Karenine qu'elle est une insoumise, une petite sœur d'Antigone. Vous l'avez prise comment, vous ?
D'ailleurs, moi, je travaillais au théâtre en Iran, mais j'ai jamais travaillé le théâtre en France à cause de la langue et tout ça. Et là, c'est la première fois après 10 ans que oui, je monte sur scène. Et bon, je crois que bon, on a parce que quand on a une œuvre comme Anna Karenine, on a plusieurs façons de le regarder. Bon, dans celui-là, je crois. Cette émancipation des femmes pour Gaëtan, c'était vraiment la première chose qui lui l'intéressait vraiment. Et elle, moi aussi, je la trouve, c'est quelqu'un qui peut pas vivre, elle peut pas vivre dans les compromis, elle peut pas vivre les choses à moitié. Elle doit les incarner entièrement, et c'est pour ça qu'elle brûle. Elle est condamnée à mort un peu parce que la société, elle accepte pas. Ça.
Il faut rappeler l'histoire d'Anna Karenine. Elle va donc tomber dans cette passion avec le comte Bronski, mais c'est pas simplement une femme adultère. C'est vrai qu'elle va deux fois montrer qu'elle s'en fiche, on va dire, des conventions sociales, hein, parce qu'elle va tomber dans cette passion, se repentir en couche, puis retourner avec l'amant. Vous dites que c'est une femme qui fait peur au pouvoir.
Exactement, je crois, parce qu'il y a des codes sociales qui, même Alexis Karenine, il dit qu'on ne viole pas impunément. Oui, c'est pas possible. Et elle, c'est vrai qu'elle veut, elle peut pas faire ça parce qu'elle dit, même dans le roman, le mari il dit, si t'as des amants, c'est pas grave, mais il faut que ça soit caché, il faut pas que ça peut nuire ma carrière, c'est pas possible parce qu'il est ministre et il est très très fort. Et elle veut pas, elle veut vivre vraiment cette histoire d'amour passionnel entièrement. Elle veut partir avec lui. Et c'est là que tous les problèmes commencent. Et voilà, Alexis, il refuse le divorce. Elle est vraiment au banc de la société. Après, à un moment donné, bon, elle est une femme respectée. Elle est un symbole en Russie de vraiment une femme qui est tout le monde a envie de la voir. Et après, elle devient quelqu'un qui personne vraiment, tout le monde la fuit à la fin au bal, à l'opéra, toutes ses amies, tous les gens de la société, ils refusent de la voir. Alors c'est vraiment, c'est tragique.
Golshifteh Farhani, Tolstoï a pu écrire que Anna Karenine ressemblait à la lueur d'un incendie au milieu d'une nuit sombre. C'est comme ça que vous vous la représentez également, comme un incendie. Vous parliez justement du feu de la passion.
Je crois que oui, elle est une flamme qu'elle devient encore plus en plus grand parce que quand on est dans une nuit et il y a un papillon qui brûle et ce papillon va brûler aussi les autres et c'est pour ça on a peur de ce genre de personnes dans une société, on a peur des individus, on a peur des gens qui veut pas vraiment suivre les codes de la sociale ou bon dans les pays comme l'Iran l'individu ça existe pas vraiment, d'être un individu c'est très très difficile. Bon, en France c'est bien, c'est une qualité, on aime mais on n'aime pas parce que ça nous fait peur.
Elle vous fait peur aussi cette Anna Karenine?
Non, parce que je suis un peu Anna Karenine. Je ne suis pas Anna Karenine elle-même, mais dans mon parcours à moi, moi aussi, j'ai vécu une vie de brûlance. Je me suis brûlée et j'ai brûlé les autres. Et c'était ça, parce que moi aussi, je ne pouvais pas vivre une vie de compromis. J'avais envie de vivre la vie entièrement et de ne pas mentir à moi-même, au moins.
Et c'est vrai que lorsque vous faites le monologue final d'Anna Karenine, qui l'a conduit donc à la fin tragique qu'on connaît, quand on a lu Tolstoï ou vu l'une des adaptations, au salut, au théâtre, ce qui m'a frappé, c'est que vous revenez trois fois sur scène saluer le public et vous êtes encore en larmes, vous êtes encore dans ce monologue Golshifteh Farhani. Et forcément, je me suis dit que cette Anna Karenine, oui, elle était très proche de vous. Vous dites qu'elle a payé très cher sa liberté comme vous. Est-ce que voilà, ça a fait remonter particulièrement des choses que vous avez pu vivre en Iran, à la fois à travers l'exil et aussi, je crois, adolescente, lorsque dans la rue, on vous avait agressé à l'acide?
Oui, bon, cette histoire de l'acide, c'est comme surface, mais de toute façon, je crois, ce que j'ai vécu, oui, on a beaucoup de choses en commun. Moi aussi, j'étais complètement rejetée, pas seulement par le pouvoir, mais une partie de la société. Alors quand elle dit, je ne connais pas du tout ce quartier, ces rues sans fin, avec ces maisons, toujours ces maisons qui sont habitées par une foule de gens qui se haïssent tous les uns les autres. Oui, moi j'ai vécu ça, je vécu ça tous les jours sur l'Instagram et Facebook et tout ça. Les gens qui m'insultent, les gens qui me détestent, je sais pas exactement, mais nous aussi, on sait qu'on est condamné à ça quand on veut vivre des choses un peu différemment de ce qu'on doit et ce que c'est écrit par la société ou par les pouvoirs. Ça, oui, ça devient quelque chose en commun et j'ai plusieurs choses en commun avec elle. J'ai des scènes dans l'Anna Karenine que j'ai vécu, les vraies scènes dans ma vraie vie que je peux vraiment sortir de ma vie et les jouer sur scène.
Et quand vous parlez de l'exil comme un enfant qu'on abandonne, c'est un peu le petit Sergueï qui abandonne Anna Karenine. C'est votre Iran.
C'est vrai, c'est quelque chose que je peux plus l'avoir. C'est cet enfant perdu, cet enfant mort qui est parti pour toujours. C'est comme une douleur à l'intérieur qui se finit jamais. Et voilà, mais que faire? C'est la seule. On doit payer cher. On paye cher. C'est le prix de la liberté. C'est très très cher.
Justine Triet, Anna Karénine, c'est une histoire de liberté, c'est une histoire tragique de liberté, c'est aussi une grande histoire d'amour avec Tolstoï qui, dans ce roman, au départ, avant d'être une pièce dans laquelle vous jouez, donc Gold Shifted Parani, c'est ce roman de Tolstoï où il y a trois couples, Daria et Oblonsky, Lévin et Kitty, Vronsky et donc Anna, qui sont trois versions un peu emblématiques de l'amour, la tendresse sans flamme, l'amour vrai et puis la passion fatale. Vous, dans votre nouveau film, Victoria, vous secouez tout ça, tous ces vieux schémas de l'amour entre un homme et une femme. J'ai l'impression qu'on est un peu comme chez Rimbaud dans Une saison en enfer avec sa vierge folle où il dit que l'amour est à réinventer. C'était aussi ça le projet de ce personnage fort et trouble à la fois de femme, Victoria, de réinventer l'amour?
Oui, en tout cas de réinventer peut-être le cliché de ce qu'on montre en tout cas des femmes en France, occidentales en tout cas, dans les comédies. Quoi. Souvent on voit des femmes voilà, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de... J'entendais Gold Shifted qui parlait, voilà, elle est dans un univers plein, elle a plein de choses qui résonnent, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les gens qui peuvent, comment dire, vivre des choses dans un univers plein, pas dans un univers vide, et souvent, surtout dans la comédie, voilà, on voit des gens, des jeunes filles qui, en gros, cherchent soit des plans cul, ou juste à se marier, ou alors, voilà, c'est quand même des histoires assez, assez tristounes, et qui finissent toujours par quand même rentrer dans des schémas assez archétypales comme ça de...
C'est Bridget Jones.
Oui, voilà, c'est ça. Alors que moi, c'était vraiment l'inverse, en fait. Je voulais vraiment montrer quelqu'un qui a vécu des choses très dures, amicalement, dans les relations sociales, de travail, d'amour, et qui finalement, n'a plus goût aux choses et a besoin de vraiment toucher le fond pour retrouver un peu de grâce, un peu de beauté, quoi.
Mais d'emblée, donc, on est quand même dans un film, une comédie éminemment burlesque. Vous parlez des plans cul, il y a un plan cul dans le noir pour parler de plans de cinéma.
J'aime pas ce mot-là en plus, plan cul, je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Mais c'est très cinématographique, justement. Ouais. Vous diriez un mot sans peut-être dévoiler cette séquence
Oui, c'est la scène dans le noir, non, ouais. c'est en fait quelqu'un qui elle reçoit des gens. En fait, elle voit une voyante qui lui dit qu'il faut qu'elle renoue avec l'amour, le sexe, la vie, le monde. Et donc, elle reçoit des gens chez elle, mais elle joue plus les psychanalystes que les amantes. Et là, en l'occurrence, l'homme qu'elle reçoit, a envie vraiment de passer à l'acte. Et elle, en fait, le moment où elle est en train de faire l'amour, elle a des visions, en fait, et elle pense beaucoup plus. C'est des choses qui me sont arrivées des fois. Et donc, du coup, elle a des idées pendant qu'elle est en train de faire ça avec cet homme. Et donc, l'homme est lui-même concentré sur ce qu'il fait, et elle pense à ses problèmes de travail, à son ami qu'elle doit défendre et qu'elle hésite à défendre à ce moment-là dans le film. Donc voilà. Donc c'est une situation qui est comique alors que voilà, c'est assez pathétique à l'origine.
Toi ?
Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal.
Merde, mais. Mais tu vas tout le temps mal, hein ?
Non, non. Là, c'est différent, là. C'est tout ce que t'as à dire.
Monsieur Mallet ?
Oui.
Ah hein ? Non, c'est un type que je connais.
Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, bonsoir.
Bonsoir, bah, je suis un cousin éloigné du témoin, en fait.
D'accord, bah, je vous présente un ami, c'est un ancien client que j'ai défendu.
Ah ouais, t'es accusé de quoi?
Stupéfiant. Mmh. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de m'avoir sorti d'affaire, c'est fini, là, je dis plus.
Oh, bah, t'as jamais eu la tête d'un dealer, de toute façon, j'ai toujours dit ça. Oui, hein.
C'est gentil.
C'est vrai.
Vous êtes aux côtés de Victoria, donc l'héroïne du nouveau film de Justine Triet, entourée à la fois de Melville Poupeau, un ami qu'elle doit défendre, qu'elle va devoir défendre dans un procès pénal, et d'un ancien client qu'elle découvre là le soir d'un banquet, d'une noce. On est dans une sorte de triangle amoureux un peu détraqué à votre sauce, Justine Triet, et on est dans un plan fixe après avoir longtemps travaillé à l'épaule avec les tremblements du cinéma documentaire dans la bataille de Solferino, par exemple, votre premier film de fiction. Aujourd'hui, vous avez voulu ne plus bouger, dites-vous, inspiré par Renoir. Et là, dans ce plan-là, on est vraiment dans un plan fixe. Il y a plusieurs plans, mais il y en a un notamment avec ce trio. Vous pouvez nous parler de ce plan, puisque vous dites que maintenant, l'énergie doit venir de l'intérieur du plan.
Non, mais c'est vrai que quand j'ai abordé le début de ce film, je me suis dit, voilà, bah déjà, on a eu de la chance, on a eu un peu plus d'argent. Et ce que les gens prenaient pour mon style ou quelque chose que j'avais voulu dans la bataille était plus, en réalité, un état de fait par rapport, enfin, les conséquences du peu d'argent qu'on avait pour tourner. On a tourné en 23 jours, là, on a tourné en 3 mois. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai voulu vraiment essayer de trouver une autre manière de tourner, c'est-à-dire que au lieu de faire tourner la caméra et les gens un peu en roue libre, là j'ai voulu recadrer les choses et finalement retrouver le rythme dans la scène elle-même. Et ça, c'est une scène où je sais que pourtant on a fait plein de plans de coupes, etc., des plans serrés, etc. Et puis au montage, je me suis dit non, ce qui est beau, c'est justement d'avoir tout à coup cette scène qui existe avec ce temps-là. Et en plus, je trouve que Virginie et Vincent Lacoste ont vraiment un rythme très différent et arrivent à... Il y a une magie qui se dégage du fait justement qu'on voit ce plan en plan séquence et que c'est pas ultra découpé.
Et qu'elle a cette robe lamée dorée nourrit l'énergie du plan aussi.
Ah oui. Non, mais c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Enfin, je sais pas, Gold Shifté, elle connaît ça, j'imagine aussi. C'est l'un des trucs les plus difficiles à faire, d'arriver à finalement garder les plans séquences qu'on fait au tournage. C'est une chose, moi, qu'on essaye tous de faire, j'ai l'impression, plein d'amis réalisateurs, et souvent au montage on se dit bon allez, c'est un peu trop mou, on va redynamiser, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas la même expérience des choses quand on regarde un plan comme ça et qu'on a une perception, je trouve, du temps et là c'est dans les silences, dans la façon dont ils se regardent, dans l'autre parle pas, c'est dans tout ça qui existe et qu'on peut regarder plusieurs fois en voyant pas les mêmes choses aussi, quoi. Voilà.
Chez Atik Raimi, Golshite Farahani, vous dites que vous aviez voulu ce rôle absolument en lisant son livre qui a été pris Goncourt à l'époque en 2008, Sigue Sabour, avant d'être adapté. Vous dites que vous étiez prêt à le jouer dans la rue si jamais il vous prenait pas. Là, on est sur aussi un matériau littéraire au départ. Et dans le travail d'adaptation qui a été fait au théâtre par Gaëtan Vassard, on retrouve dans la trilogie des personnages féminins justement un soin particulier à la situation de la femme en Russie à l'époque et à l'écho contemporain. Il le dit, le metteur en scène, il n'y a pas d'intérêt à monter du classique s'il n'y a pas d'écho contemporain. Le personnage d'Anna Karenine, mais aussi celui de Daria, celui de Kitty, ça vous a paru, vous aussi, dans le travail et dans le jeu avec ces actrices-là, trois personnages, trois façons d'aborder l'émancipation féminine.
Oui, c'est exactement comme vous disiez, il y a trois couples, un couple avec plusieurs enfants, qui ont une vie assez l'amour sans tendresse, et on a aussi l'autre couple, Kitty et Levin, qui, elle cherche vraiment une vie acceptée par la société, vraiment une fille qui veut se marier, avoir des enfants dans le château, tout ça, et on a Anna qui se brûle complètement, elle sort de tout ce qui est génial et accepté par la société, elle rentre dans une autre chose. Et voilà ce que Justine disait par rapport à cette chambre noire, ça m'a rappelé de cette scène dans le Pierre de patience qui
Sigue Sabour, donc
oui, parce que elle aussi, elle raconte que elle, pour avoir ses enfants, elle allait dans une chambre noire qu'elle pouvait pas voir l'homme pour tomber enceinte. Alors ça m'a rappelé de cette image là qu'on avait, parce que elle, c'est une femme.
Elle, c'est l'héroïne, donc, de Singe
Exactement, et Sabour. Exactement, elle, héroïne de Singe et Sabour, qu'il peut pas avoir les enfants. Et le mari, elle veut la divorcer, la jeter ou prendre une deuxième femme, marier une deuxième femme. Et elle, pour pouvoir, survivre, elle voit quelqu'un, un homme, qui elle la connaissait pas du tout. Et l'homme, il baise et voilà, elle va avoir les enfants. C'est pas elle qui peut pas avoir les enfants, c'est l'homme. Alors, et le mari, c'est pas ça. Et ça m'a rappelé un peu de, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais j'ai pensé, waouh, c'est un truc aussi, une chambre noire, une femme et un homme, et deux choses complètement différentes. C'est vraiment l'Occident et l'Orient un peu. Et aussi, c'est drôle, par rapport à les plans séquences qu'on parlait, je crois, on avait des scènes de 5 minutes sans couper dans Pierre de Patience. Et justement, j'ai fait un film en Inde que presque tous les séquences de films, c'était des plans séquences avec des cranes et le caméra dans l'air et bas. Et c'est très, très difficile à faire parce que c'est comme un peu de théâtre. C'est la tension de théâtre parce que c'est une seule chose, ça va pas. Il faut refaire, oui, refaire, refaire. Ouais. Mais si on arrive à le faire, il y a une espèce de magie qui se passe dans la scène qu'on a oublié parce que là, dans le cinéma, c'est coupe, 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 on cote, 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 cote. Et là, il y a quelque chose dans les films de Renoir, justement, on voit que wow, les acteurs sont là, la scène est là, on a l'impression d'être là dans les plans séquences. Et moi, je les trouve extraordinaires. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui est comme une chambre noire avec une lumière rouge au milieu.
À suivre, une balade sur la croisette, en robe lamée ou pas, avec nos invités Golshifteh Farahani et Justine Triet.
Mais tout de suite, il est l'heure du journal de la culture avec Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Mathilde, bonsoir Martin, bonsoir mesdames, bonsoir à tous. Et ce soir, dans le dossier du jour, on parle du festival Musique Métisse d'Angoulême. Sa 41e édition a eu lieu ce week-end dans une forme inédite et clairement resserrée. Et pour cause, elle a bien failli tout simplement ne pas avoir lieu tant les moyens financiers manquaient. Et le festival encore aujourd'hui se bat pour sa survie. Car on le sait, depuis décembre dernier, ce festival, qui est le plus ancien festival de musique du monde en France, a bien failli fermer boutique. Et pourtant, il a tenu grâce à la mobilisation de son public, mais surtout de ses artistes, de son réseau. Il entend bien aujourd'hui survivre pour faire honneur à son histoire et sa mission, explique son programmateur Patrick Duval.
C'est un festival qui a fêté l'an dernier ses 40 ans, qui a été créé à Angoulême par Christian Mousset. C'est un festival où ont été révélés beaucoup de groupes, comme Kassav, comme Cesaria Evora, ou Johnny Clegg, qui a été carrément découvert par Christian Mousset. Rocky Traoré a fait ses premiers concerts à Musique Métisse. La situation est assez simple, et c'est un festival qui a accumulé sur plusieurs années un déficit, qui est arrivé donc l'an dernier à 140 000 euros, sur un budget de 1 100 000 euros. Et donc, en fin d'année, le conseil d'administration a décidé d'arrêter l'activité de l'association, donc a prononcé sa liquidation.
Alors, liquidation qui est un véritable coup dur, mais finalement, la mobilisation des acteurs de la musique du monde, producteurs, tourneurs, a permis, avec des négociations avec le tribunal, de transformer cette liquidation judiciaire en redressement judiciaire, ce qui n'est pas la même chose. Mais, 3 mois plus tard, les principaux financeurs de ce festival, à savoir le ministère de la Culture, le département, la région, l'agglomération et surtout la ville d'Angoulême, se sont réunis pour savoir ce qu'ils faisaient. Tous ont maintenu leur subvention, à l'exception notable du principal financeur, à savoir la mairie d'Angoulême elle-même, qui a accepté simplement de donner un soutien logistique au festival, mais plus d'argent. En 2 mois seulement, les organisateurs ont quand même décidé d'organiser un festival dit de transition, resserré sur 2 jours au lieu de 3, dans un espace, la Nef, moins joli mais moins coûteux que son lieu habituel, et surtout avec le soutien de nombreux artistes venus jouer avec des cachets clairement diminués, voire carrément gratuitement. C'était le cas du groupe antillais Kassav, mais aussi du bluesman camerounais Blik Bassi.
Moi, je connais le festival Musique Métisse depuis le Cameroun, hein, où j'ai grandi et où j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste. Et pour nous, mon ancien groupe Makaz et moi, qui étions considérés comme un groupe de musique du monde, c'était un peu l'objectif de partir jouer à Musique Métisse. Donc, caractéristique, ce qui fait la différence, c'est d'abord les gens qui sont derrière, hein, qui défendent toutes les musiques du monde, parce qu'on sait bien que c'est des niches qui sont compliquées, le marché de la musique étant complexe aujourd'hui. Ce qui souffre le plus, c'est des réseaux qui ne sont pas forcément grand public, et donc notamment les musiques du monde. Et le fait que Musique Métisse, quelque part, connaisse des problèmes et tend à disparaître, sera un choc énorme, parce que c'est l'un des festivals qui représente vraiment le festival des musiques du monde. Et aujourd'hui, si ce festival disparaît, pour les musiques du monde, c'est un coup incroyable. Cela veut dire vraiment que le réseau des musiques du monde devient vraiment, vraiment fragile. C'est la raison pour laquelle moi, sans hésiter, j'ai accepté d'aller jouer là-bas et voilà.
Grâce à cette mobilisation, l'édition donc 2016 a pu avoir lieu. Mais maintenant, le festival doit assurer son avenir, forcément difficile, parce que grâce à ce redressement et non cette liquidation judiciaire, il dispose d'une bien plus longue échéance pour rembourser ses dettes, mais elle reste néanmoins bien là. Et surtout, le festival doit se réinventer. Mais la mairie d'Angoulême, qui n'était pas disponible aujourd'hui pour répondre à nos questions, a semble-t-il envoyé des signaux positifs, nous explique le programmateur Patrick Duval.
Il semblerait, que dit le maire d'Angoulême dans la Charente Libre, que pour 2017, la ville soit prête à réétudier son positionnement et peut-être à revenir dans la boucle pour soutenir Musique Métis. Voilà. Déjà, là, il faut aller très vite. Il faut vraiment maintenant faire le bilan de cette édition 2016, bilan financier, etc. Dans le même temps, travailler sur le format 2017. Est-ce qu'on reste sur ce site de la salle musique actuelle, la Nef? Il y a de fortes chances. Mais il faut redonner une visibilité à Musique Métis. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une programmation toute l'année, une programmation régulière d'activités, donc avec 2-3 rendez-vous pendant l'année sur Angoulême, et puis peut-être à l'échelle de la nouvelle grande région, une forme de caravane musique métisse qui pourrait s'appuyer sur 3 ou 4 salles musique actuelles dans cette grande région. Le rôle que peuvent jouer ces musiques dans structuration aussi de vivre ensemble dont on a tant besoin aujourd'hui et sur lequel les musiques du monde ont un rôle absolument fondamental à jouer.
Voilà, effectivement, la fréquentation de cette édition 2016 n'a pas été absolument au niveau des attentes des organisateurs qui soulignent quand même qu'ils n'avaient eu finalement que 2 mois pour la préparer. Mais pour continuer d'exister, Musique Métisse doit maintenant proposer un projet plus ambitieux et qui permette de toucher beaucoup, beaucoup plus de monde. Et tout de suite, on passe au bref et l'on ouvre avec l'artiste-performeur russe Piotr Pavlensky. Rappelez-vous, je vous en avais parlé au début de l'automne, jugé aujourd'hui pour avoir mis le feu aux portes du siège des services secrets russes. C'était l'automne dernier. Il a refusé de s'exprimer ce mercredi devant le tribunal lors de la première audience officielle de son procès puisqu'il comparait pour vandalisme. « Je ne veux plus parler », a-t-il expliqué aux journalistes. « Je ne veux pas soutenir, je cite, les rites bureaucratiques en s'exprimant lors de ce procès qui pour lui n'en est pas un. » Piotr Pavlensky qui a affirmé hier avoir été passé à tabac par l'un de ses gardiens pendant un transfert et avoir une blessure au genou et des hématomes internes. Il a par ailleurs assuré aux journalistes qu'il se sentait extrêmement serein peu avant l'audience. Le comité d'expertise sur l'assurance chômage des intermittents, qui devait se prononcer aujourd'hui sur l'accord historique, qualifié d'historique, trouvé fin avril par la profession, a décidé finalement de reporter son avis pour des raisons juridiques. L'instance, composée notamment des représentants des ministères du Travail, de la Culture, de Pôle Emploi et de l'UNEDIC, ont décidé que l'accord comporte un certain nombre de formulations pas très claires, qui peuvent susciter des interprétations divergentes. Pour que le comité d'expertise puisse se prononcer, les signataires vont devoir corriger l'accord et en supprimer les biais juridiques. Cela repousse la date d'examen à une période indéterminée qui pourrait être de 3 semaines. Et enfin, on termine avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a inauguré ce mercredi près de Ramallah un ambitieux musée qui préservera la mémoire du peuple palestinien. Musée qui a ouvert sur des portes vides. Les expositions ne commenceront qu'en octobre car les différents commissaires ont tous successivement démissionné ces derniers mois en raison de divergences avec l'autorité palestinienne.
Ping-pong. Patterson, c'est un des films dont on parle beaucoup en ce moment. D'aucuns disent qu'il pourrait même avoir la Palme d'Or. C'est signé Jim Jarmusch. On y retrouve Goldshift et Farhani.
Hello, darling.
Hello, honey.
I'm painting.
Hello, Marvin. I see that.
What do you think? Does it make everything more interesting?
Yeah, it's very interesting.
How was your day?
The usual.
Getting your writing done?
I did a little, yeah. Working on a poem for you.
A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem.
I can't wait to read it when it's done.
Adam Driver, inoubliable petit ami d'Anna, dans la série Girls bien sûr, mais qu'on voit aussi en méchant dans Star Wars. Il est donc dans ce Jim Jarmusch Patterson qui est en compétition officielle à Cannes cette année, aux côtés de vous. Golshifteh Farahani, il est chauffeur de bus, mais il est aussi poète. Vous vous peignez dans l'appartement, vous créez de sortes grandes bandes noires, des formes comme ça. C'est la poésie du quotidien. Pour vous, je crois que les plus grands poètes, ils se cachent justement comme ça, dans des recoins auxquels on n'a même pas idée. Ils sont même pas à Cannes, les vrais poètes, Golshifteh Farahani.
Oui, c'est ça. L'histoire de ce film, je crois, c'est justement ça, que les vrais artistes, les vrais gens extraordinaires, ils ont une vie assez ordinaire. Et justement, extraordinaire, ça sort de ordinaire. Et des fois, on oublie ça. On cherche toujours ailleurs, dans les vies de célébrités, des grands vies de je sais pas, de faux d'artifice, mais les vrais artistes, je crois, ils ont une vie très très ordinaire. Et voilà, l'histoire de Patterson, c'est un peu ça. Une vie, une femme qui habite dans la maison, une femme de maison, qui justement, elle a pas du tout une vie ordinaire. Elle rend cette banalité de vie assez poétique et assez artistique.
Justine Trier.
Je suis très c'est une question très groupie. Hein. Je suis très très amoureuse de Adam Driver, comme toutes les jeunes filles qui ont voilà. Enfin, comme je suis pas une jeune fille, mais bon, comme tous les gens qui ont suivi Girls. Enfin. Je voulais juste savoir comment s'était passé le tournage avec lui. C'est, enfin voilà.
Juste... Une question de je sais.
C'est pas une question people, hein, c'est juste une
15
question.
15 ans Paris. Ouais,
Adam, il est vraiment un être exceptionnel et extraordinaire. Il est très comme moi, ce que j'ai voyé dans lui, je le connaissais pas beaucoup, mais il est très à l'intérieur de lui. Il est très drôle, il est très gentil et assez. Bon, dans ce film-là, moi, quand j'ai vu le film, j'étais étonnée parce que c'est tellement difficile de ne pas jouer grand-chose. Et justement, il disait dans la conférence de presse, dans les descriptions de scénario, c'est Patterson, écoute. Patterson, écoute. Patterson, écoute, écoute, écoute. Et il disait, voilà, justement, pour moi, j'ai appris de l'écouter parce que, justement, ce personnage, il écoute. Quand on joue dans les films et tout ça, on écoute beaucoup. Mais lui, dans ce film-là, il écoute beaucoup. Il est dans un écoute extraordinaire et il était génial. Même le petit chien, on entend là, on dirait c'est quoi ce truc. Elle était la seule personne qu'elle aimait, c'était lui. Parce qu'on avait cette chienne qui malheureusement elle est morte, Nelly, qu'elle jouait un garçon, Marvin, parce qu'elle est vraiment le troisième personnage de film, ce chien. Et elle était vraiment amoureuse de Adam.
Parce Adam, c'est un peu théorème hein, de Pasolini.
Ouais,
de pas tomber amoureux.
C'est ça, c'est ce corps incroyable.
Oui, il est immense, il est immense.
Ouais. Non, mais il a une densité, ça une intensité qui est rare. En fait, je trouve. Non, c'est pas au-delà. C'est juste un truc de. Il y a des acteurs très beaux, mais c'est autre chose. Il a quelque chose qui est rare, je trouve.
Et Jim Jarmusch, alors il est comment, Jim Jarmusch? Parce que nous, on est fans de Jim Jarmusch.
Oui, j'étais pareil, je crois.
Entre autres pour Dead Man. Comment ça s'est passé sous sa direction?
Bon, moi, j'arrête pas à dire, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Il est quelqu'un vraiment tellement doux et tellement. J'ai pas vu des réalisateurs qui remercient tous les gens de l'équipe après chaque prise. Il venait vers tout le monde. Je vous remercie avec les yeux qui brillaient. C'était vraiment émouvant la façon avec laquelle il travaille. C'est vraiment extraordinaire et il est. Bon, il fait un casting, je crois, qui est pas mal. Et après, il nous l'a laissé assez tranquille. Mais il y avait des moments qui ça marchait pas et on essayait d'aller trouver vraiment. Mais on est vraiment... C'était génial, mais ça me fait mal qu'il a du mal à monter ses films. Et si les Français n'étaient pas là, pour lui, c'est difficile de monter ses films. Et c'est une blague de notre siècle que Jim Jarmusch et ce genre-là, même Woody Allen, ils ont du mal à monter leurs films. C'est quand même drôle.
Justine Trier, vous n'êtes, je ne sais pas si vous êtes du genre à remercier tout le monde après chaque prise. En tout cas, vous êtes du genre à houspiller tout le monde pendant la prise.
On vous appelle Juju.
Notamment non, cette fameuse scène de bal dans la noce.
Cette histoire de Juju, c'est terrible. Ça me poursuit.
C'est un article de Libération.
C'est horrible.
J'ai balancé tous les secrets.
Il y a quelqu'un qui m'a appelé Juju et depuis, c'est devenu tout le monde. Appeler la Juju après, alors que personne ne m'a jamais appelé Juju, c'était une blague. Pardon, donc oui, la question.
Et donc vous
c'était...
vous secouez vos comédiennes, ou en tout cas les figurants? Et oui. Vous les remerciez après, des non, larmes aux yeux?
Non, non, quand même pas toujours. C'est vrai que... Non, moi, je suis très douce, je suis quelqu'un de très gentil, mais c'est vrai que je suis assez obstinée quand même. Donc, il faut quand même être un peu obstinée, sinon on s'endort, quoi.
Et vous êtes obstinée comme votre personnage de Victoria, donc ouais. C'est Virginie Efira dans votre regard, sous votre caméra, dans ce nouveau long-métrage qui était donc aussi à Cannes et qui a été admirablement accueilli par la critique dans la semaine de la critique. Il y a ce personnage qui est une battante, il y a les contraintes et les codes de la comédie, du burlesque, tout ce corset, toute cette mécanique. Et en même temps, à l'instant, Mathilde parlait de la poésie du film de Jim Jarmusch. Il y a aussi de la poésie, me semble-t-il, qui affleure dans cette histoire de Victoria, en particulier dans les plans silencieux, avec une musique en fond sonore, quand on voit Virginie Efira un peu égarée dans un costume de fée. Pour vous, la poésie de votre film, elle était à quel moment elle a peut-être surgi pendant le montage aussi?
Non, elle a surgi dès le moment, enfin pendant le tournage, à des moments précis où il fallait surtout ne pas faire une comédie, corsetée dans quelque chose de trop, comment on peut dire, comme on voit toujours quoi, des comédies où on a l'impression que le rythme est là, mais il y a plus d'âme, il y a plus, voilà. Pour moi, la comédie, c'est quelque chose que je mets au-dessus de tout. Mais c'est récent en fait, j'ai découvert vraiment la comédie assez tard et je me suis rendu compte que finalement c'était une chose incroyable quand c'était beau, quand c'était pas vulgaire, quand c'était voilà. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué maintenant à voir un style de comédie d'efficacité, encore toujours dans cette histoire de représentation des hommes et des femmes qui est quand même très problématique pour moi, que du coup de faire quelque chose qui est légèrement un peu différent, les gens te disent ah bon c'est étrange machin etc. Mais en fait pour moi c'est assez simple. Après la poésie elle est née franchement même dans une scène comme la scène où il devait se regarder enfin dans le lit à un moment donné où ils étaient tous les deux
Vincent Lacoste et Virginie
Efira. Oui, pardon. Ouais, et qui devaient faire l'amour ensemble. Je sais que moi j'avais mis sur le script et ils font l'amour. Et puis après ils me regardent
et ils écoutent.
Et ils me disent "Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant Justine ?" Je fais "Bon bah alors voilà, il faut que vous fassiez l'amour." Et là je dis "Bon merde, il faut que je sois un peu plus précise que ça." Donc c'était assez comique parce qu'on s'est retrouvé du coup Virginie m'a renvoyé la balle en me disant "Bah vas-y, montre qu'est-ce que tu veux faire, montre-nous toi avec ton corps." Donc du coup, je me suis retrouvé à un califourchon en train de mimer
la situation
avec la coach acteur. Non, pas sur la Vincent. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très difficile d'être flou dans ce genre de situation. Et en fait, voilà, il s'est passé un truc dingue, c'est que la matinée, en fait, on a filmé tout le moment où ils se regardent, où ils se parlent. Et c'était le moment pour moi qui est presque le plus fort, en fait, de la scène. Et où il y a eu vraiment un truc de poésie qui s'est passé, mais vraiment entre les dialogues, dans les silences aussi. Et après, dans cette scène où ils s'embrassent et où ils simulent ça. Et où finalement, c'est devenu franchement étonnant parce que Virginie m'a dit, écoute, j'aimerais que tu sois avec nous, près de nous, pour nous diriger vraiment. Donc du coup, je me suis retrouvée à côté d'eux et c'était très étrange comme situation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une poésie aussi dans le geste, je trouve, dans ce film
Quel genre de geste?
C'est-à-dire que vous avez des gestes féminins.
Victoria se gratte les cuisses.
Exactement.
Ah oui.
Il y a des gestes féminins très, très précis qu'on ne voit jamais au cinéma. Des petits détails féminins, effectivement. Elle est en robe lamée, elle est en train de discuter avec son client Melville Poupeau en garde à vue. Tout d'un coup, elle se frotte un peu les cuisses.
Vous avez regardé ça? C'est dingue, parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé de vous avez remarqué ça.
Mais pas ça, parce qu'il y a énormément comme ça de petits détails poétiques. Est-ce qu'il y a peut-être justement dans votre façon de casser l'armure de la femme forte, il n'y a pas une attention justement à tous ces petits gestes de fissure?
Oui, complètement, complètement. Puis c'est ça qui fait aussi le charme et la... Moi, je sais que l'une des choses qui me trouble le plus chez un comédien, c'est ce qu'il fait de ses mains aussi. Donc c'est... En plus, moi, je décris très peu ça sur le texte. Donc c'est des choses qui se trouvent sur l'instant. Et c'est vrai que bon, Virginie, hormis le fait qu'elle fume beaucoup, elle a ces petites choses, elle arrive à trouver des... On a trouvé ensemble des petites choses comme ça qui montrent un peu de vulnérabilité, un peu de... Voilà. Et on n'est pas dans la pure efficacité, quoi. Mais c'est difficile encore pour moi de déceler exactement les endroits. Parce qu'en fait, le film, je l'ai vu tellement que maintenant, j'ai un peu la tête... Je pense que je vais le redécouvrir là, mais je suis encore dans une espèce de brouillard.
Le shifté Farani.
Justine a des très belles mains. Il faut
Elle bouge très bien. Merci. Ses mains à la radio. Golshift et Farani, au cœur de Victoria, ce nouveau film de Justine Triet, il y a donc eu cette rencontre impromptue, inattendue, entre l'avocate Victoria et son ancien client Vincent Lacoste. C'est aussi une histoire de rencontre impromptue, inattendue. Anna Karenine, que vous jouez au théâtre en ce moment, au Théâtre de la Tempête, entre Vronsky et Anna. Et puis, vous avez pu dire, puisque vous revenez de Cannes, on était à vos côtés et aux côtés d'Adam Driver il y a un instant, que vous aimez Cannes parce qu'on croise forcément des gens qu'on n'a pas envie de voir et j'ai envie de ces rendez-vous-là. Qu'est-ce que vous avez croisé que vous n'aviez pas envie de voir à Cannes?
Bon, pas parce que j'étais là-bas juste quelques heures, presque 30 heures, j'étais là-bas. Alors, je crois que cette année, il n'y avait pas des catastrophes de croiser les gens qu'on n'a pas envie de les croiser. Mais c'est extraordinaire parce que c'est ces scènes-là qui, après, on décrive dans la vie. Alors, j'ai vu cette personne. Alors, lui ou elle, il a rentré. Alors, c'était gêné. Les gens pendant le dîner, il y avait une espèce de silence pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à Cannes qui les gens se recroisent, les ex, c'est extraordinaire.
Il y a toujours des histoires comme ça.
Ils m'ont dit, ils vont écrire sur les listes de déjeuner et dîner, par exemple, cette personne ne doit pas être invitée dans cette dîner que, par exemple, moi, je suis là. Et c'est toujours mal fait. C'est toujours, on est assis devant l'un et l'autre. Alors, mais malheureusement, cette année, il n'y avait pas des tensions à ce point-là. Ça, je vais m'ennuyer un peu.
Pas comme dans Anna Karénine, où il y en a. Et je rappelle, vous étiez au théâtre déjà en Iran, mais c'est la première fois que vous y venez en France. Donc, on peut vous découvrir à la Tempête.
Oui.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Et tout finit par des chansons, Zoé.
Toujours avec
On vous retrouve pour le disque du jour.
Un disque qui porte déjà plutôt bien son nom, puisque c'est le premier album d'un duo qui s'est baptisé Hyperculte, tout simplement. Mais en fait, on a envie de dire que ça leur va très bien, parce que c'est la rencontre assez explosive entre un contrebassiste et une batteuse, pas n'importe lesquelles. Lui, c'est Vincent Berthollet, c'est le fondateur de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, ensemble très jouissif et libre, qui sévit depuis plusieurs années déjà. Et elle, c'est la batteuse Simone Aubert, batteuse cymbaliste du groupe lyonnais Massico. Tous deux sont assez unis par une certaine idée de la recherche sonore, une forme d'optimisme insatiable, un amour puissant des mots, puisqu'ici on trouve dans les textes aussi bien du Brigitte Fontaine que du Tristan Tzara ou du Shakespeare. Et ça donne quelque chose de résolument vif, quasiment atemporel dans le son et surtout de très engagé pour la vie, démonstration avec le titre Résigné, mise en musique d'un poème de Tristan Tzara.
La nuit finira tel un jour pourrions-nous vivre sans détour.
C'est le titre issu du premier album du duo Hyperculte, titre que l'on retrouve aussi dans la dernière compilation de La Souterraine qu'on aime bien ici à Ping Pong. Cet album donc éponyme est sorti le 29 avril dernier. Ils sont en ce moment en tournée en Suisse, à Lucerne, Lugano, Genève dans les 10 jours qui viennent, et on les retrouve le 13 juillet à Luz le Sauveur dans le cadre du festival Jazz à Luz.
Merci Zoé, puisque vous aussi vous êtes Hyperculte et entêté. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de la culture et un nouveau disque du jour.
Ping Pong. Et c'est déjà fini. I'm sorry, it's over.
Merci beaucoup.
Oh, merci,
oui, c'est à la fois tragique comme Anna Karenine et un peu burlesque comme Victoria Goldshift et Farani. Vous êtes donc Anna Karenine dans la mise en scène de Gaëtan Vassard jusqu'au 12 juin au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes. Vous serez bientôt sur les écrans aux côtés d'Adam Driver dans Patterson de Jim Jarmusch. Quant à vous, Justine Trier, il faudra attendre septembre.
Oui, la rentrée, on ne sait pas encore la date.
Ouais, c'est un mystère bien gardé. Tant on s'arrache la distribution de votre nouveau film qui était donc présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, Victoria, avec notamment Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melville Poupeau et j'en passe.
Le Ping Pong est un petit festival radiophonique tragique, comique, qui s'organise en équipe à la rédaction Aïssatou Ndoye, Hélène Delis et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny.
Le ping-pong se pratique aussi pendant l'éternité et un jour sur franceculture.fr. Mais qu'en sera-t-il de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, des dessins d'architectes et des villes de papier avec Christian de Porzamparc et Thierry Van Hasselt.
Et tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.